Nous continuons aujourd'hui notre série sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 13. Nous allons voir aujourd'hui la révélation générale. Nous sommes dans la troisième partie et on va regarder la théologie naturelle et les arguments théistes. Donc, on va regarder deux choses en particulier. On va regarder comment, au cours de l'histoire, plusieurs théologiens ont rejeté l'utilisation de ce qu'on appelle la théologie naturelle et aussi des arguments théistes. Autrement dit, on a vu dans le livre de Romains que le Seigneur se révèle à travers sa création et aussi qu'il se révèle à travers la conscience de l'homme. Et est-ce que ce sont des choses qu'on peut utiliser pour évangéliser, pour essayer d'amener les âmes au Seigneur? Les arguments théistes, c'est essayer de prouver l'existence de Dieu à partir de raisonnements humains sur la création et des choses similaires. Alors, la deuxième idée qu'on va regarder, c'est qu'on va voir comment les chrétiens réformés, au cours de l'histoire, ont développé une approche biblique et réformée des arguments théistes. Autrement dit, comment on peut les utiliser, et si on les utilise, quels sont les critères qui devraient nous encadrer dans leur utilisation. Alors, on sait que Dieu se révèle de manière limitée à travers sa création visible et la conscience de l'homme. Il en résulte une connaissance universellement disponible que Dieu existe et qu'il a une nature distincte et transcendante sur ce monde, qu'il nous tiendra responsable de notre obéissance ou de notre désobéissance à sa loi morale et qu'il est en colère contre les pécheurs. Le pasteur et illustre théologien anglais Stephen Charnock, qui a vécu entre 1628 et 1680, a dit « Chaque plante, chaque atome, ainsi que chaque étoile, lors de la première rencontre, murmure ceci à nos oreilles. J'ai un créateur, je suis le témoin d'une divinité. » L'humanité déchue répond à cette révélation en résistant à la vérité sur Dieu, en refusant de l'honorer, en adorant les idoles et en continuant à pécher sans se repentir, de sorte qu'ils sont sans excuse. Alors, comment pouvons-nous répondre à la question suivante? L'Église peut-elle utiliser les arguments rationnels basés sur la révélation générale pour prouver que Dieu existe? La théologie naturelle est un système de croyance sur Dieu dérivé d'une réflexion rationnelle sur la réalité observable. La révélation naturelle est une œuvre de Dieu, tandis que la théologie naturelle est une œuvre de l'homme. Plusieurs théologiens ont critiqué sévèrement ou même rejeté la théologie naturelle. Nous examinerons sommairement leurs arguments et positions. Alors, la première idée qu'on avait parlé au début, c'était qu'on avait vu que les divers rejets de la théologie naturelle et des arguments théistes. Alors, bien sûr, ici, il faut prendre conscience qu'on va regarder très sommairement l'idée de un ou deux ou trois ou quelques théologiens. On ne peut pas regarder l'ensemble de tout ce que les théologiens ont dit sur ce sujet-là. On va en regarder quelques-uns qui sont représentatifs des différentes positions des théologiens sur l'utilisation de la théologie naturelle dans notre évangélisation, qu'on pourrait dire. Pour le théologien Karl Barth, 1886 à 1908, la théologie naturelle est une contradiction dans les termes ou une impossibilité logique. Pour Barth, en dehors de la révélation spéciale du Christ, l'homme déchu est totalement aveugle à Dieu et la contemplation de l'homme ne lui réserve que des démons et des idoles. Il n'y a aucun point de contact entre la sagesse naturelle des hommes et la révélation du Saint-Esprit. À mesure que sa théologie se développa, Barthes en vint à admettre que les choses créées sont comme des lumières qui montrent la gloire de Dieu, mais il ne fut jamais confortable d'utiliser l'idée de révélation à travers la création. Le rejet absolu de Barthes de la révélation par la création ne cadre pas avec les enseignements des Écritures. On va aller regarder des versets, le chapitre 1 du livre de l'Épître aux Romains, les versets 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, on voit que les versets parlent que l'utilisation de la révélation générale peut avoir un certain rôle. Barthes a mal interprété Romains 1 et il n'a pas apprécié l'utilisation positive que l'apôtre Paul fait de la révélation naturelle et des idées particulières des philosophes dans sa prédication évangélique dans le livre des Actes. Donc, on peut aller voir surtout la partie de la prédication de Paul aux Athéniens. Donc, on voit en gros que Barthes a rejeté l'utilisation de la théologie naturelle. On va regarder maintenant un autre théologien très connu dans le milieu protestant, c'est le théologien Cornelius Van Til, lui qui a vécu de 1895 à 1987. Il a écrit « Personne ne comprend vraiment la révélation de Dieu dans la nature, à moins qu'ils ne comprennent d'abord la révélation de Dieu dans les Écritures. Puisque la nature a été créée par Dieu, nous ne pouvons pas vraiment connaître la nature et l'homme, vraiment, à moins que nous ne connaissions vraiment Dieu. » Van Til n'a pas nié la réalité de la révélation générale, mais a reconnu l'incapacité de l'homme déchu à connaître Dieu en dehors de la révélation spéciale associée à la révélation appliquée de la grâce souveraine salvatrice. Van Til a donc soutenu que les preuves théistes ont une certaine validité dans le contexte d'un système de pensée chrétien fondé sur la Bible. Il a nié qu'ils puissent être correctement développés ou utilisés par des non-croyants. Pourtant, il les voyait jouer un certain rôle en montrant aux incroyants que le christianisme était raisonnable. C'est une position complexe et nuancée. Van Til a autorisé l'utilisation d'arguments théistes par les chrétiens pour montrer que la position de l'incroyant est irrationnelle et inintelligible, mais les a limités à des arguments indirects ou négatifs, tels que, qu'on appelle en latin, le reductio ad absurdum, donc qui veut dire le raisonnement par l'absurde. D'autres théologiens, comme R.C. Sproul, John Gerstner et Arthur Lindsley, ont avancé que les preuves théistes ont de la valeur. Nous n'entrerons pas dans les détails, nous voyons tout simplement que les théologiens ne sont pas tous d'accord sur le comment ils doivent utiliser et peuvent être utilisés. Nous croyons qu'une approche biblique équilibrée évitera de construire une théologie naturelle indépendante de la parole de Dieu mais permettra aux chrétiens de faire appel à la révélation générale lorsqu'ils s'adressent à des non-chrétiens. Nous allons donc offrir ci-dessous les 12 principes pour guider les chrétiens dans leur utilisation de la révélation générale pour amener à une connaissance du vrai Dieu. Donc, la deuxième idée qu'on avait parlé au début, c'était vers une approche biblique et réformée des arguments théistes. Autrement dit, l'approche biblique et réformée dit que oui, on peut les utiliser, mais on se doit de les utiliser avec un certain encadrement et en respectant certains principes, 12 principes. Alors ici, on va regarder ces principes-là un par un, très, très brièvement. Bien entendu, dans le livre que j'utilise, c'est développé beaucoup plus en détail. Mais dans le fond, ici, c'est simplement d'essayer de reconnaître les principales idées et de voir comment la théologie réformée, avec une approche biblique, comment on doit utiliser la théologie naturelle et les arguments théistes. Donc, le principe numéro un, c'est que Dieu témoigne de lui-même à travers le monde naturel. Le théologien Herman Bavinck, qui a vécu de 1854 à 1921, qui est très connu, très respecté, a dit « La révélation naturelle suppose d'abord que Dieu se révèle dans son ouvrage. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais Dieu qui cherche l'homme. Par conséquent, la connaissance de Dieu, même à travers la nature, est un effet de la révélation divine et non une découverte ou une déduction indépendante des hommes. Principe numéro 2. La croyance en Dieu est une présupposition valide. Sans cette présupposition, la vie est irrationnelle. Dieu s'est manifesté lui-même à l'humanité. On l'a regardé tantôt, mais on va le revoir, là, Romains chapitre 1, verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Lorsque les hommes empêchent la vérité d'atteindre ses propres conséquences d'adoration et d'action de grâce dans leur vie, leur esprit s'obscurcit et deviennent fous. Alors, on va aller regarder Romains, chapitre 1, versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Troisième principe, la position correcte de la raison humaine est de craindre Dieu comme son serviteur. La position humaine n'est pas de se voir soi-même comme sage ou comme juge de toutes choses. Regardons par exemple Proverbes chapitre 1, verset 7, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Se considérer soi-même comme sage et de dépendre de notre intelligence pour raisonner les questions de la vie est une marque de rébellion contre Dieu. Regardons les versets 5 à 7 chapitre 3 du livre des Proverbes. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Principe numéro 4. L'esprit du pécheur est aliéné de Dieu et ne peut pas raisonner à propos de son Créateur sans errer dans la folie et la futilité. On va regarder deux choses. D'abord, quelques versets et aussi un extrait de la Confession de foi des canons de Dordrecht. Alors, on va commencer par Éphésiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Excusez. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On peut regarder aussi ce que la Confession de foi des canons de Dordrecht parle de cette idée-là, dans la partie 3.4. Alors, je vous la lis. « Il est vrai qu'après la chute, il a subsisté dans l'homme quelques lumières de nature. Grâce à elles, il conserve encore une certaine connaissance de Dieu et des choses naturelles. Il discerne entre ce qui est honnête et malhonnête et montre avoir quelques pratiques et soins de la vertu et d'une discipline extérieure. Mais tant s'en faut, par cette lumière naturelle, il puisse parvenir à la connaissance salutaire de Dieu et se convertir à lui, puisqu'il n'en use même pas droitement dans les choses naturelles et civiles, mais plutôt telle qu'elle est, il la souille de diverses manières et la maintient dans l'injustice, ce que faisant, il est rendu inexcusable devant Dieu. » Principe numéro 5. La philosophie des non-chrétiens est déformée par Satan. On va aller voir un passage dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Les non-chrétiens recherchent parfois la sagesse démoniaque à travers la spiritualité païenne, comme l'ont admis certains philosophes. Même les philosophes athées peuvent parler en termes de spiritualité ou rechercher un sens de la transcendance, généralement par une forme de panthéisme qui divinise le monde matériel et traite les hommes comme des dieux. Par conséquent, la raison non régénérée est loin d'être neutre, mais elle est dominée par le plus grand ennemi de Dieu. Principe numéro 6. Un usage approprié de la raison dépend de la parole éliminée par le Saint-Esprit. Pas éliminée, mais c'est illuminée. Excusez-moi, il faudrait que ça soit corrigé. Illuminée. OK. Sans la parole de Dieu, nous voyons dans Ésaïe, chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. En anglais, ça dit « To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. » On va regarder un autre passage, Éphésiens chapitre 5, des versets 8 à 14. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Principe numéro 7, les chrétiens peuvent avoir des arguments rationnels de la création. Paul est ici notre modèle en argumentant que l'homme ne doit pas adorer l'homme. On peut voir, par exemple, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 14, les versets 11 à 15. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Et vous apportant... vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Acte 17, versets 24 à 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitèrent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Paul n'utilise pas de preuves logiques démonstratives à plusieurs étapes, mais il appelle les païens à tirer des inférences logiques simples, autrement dit des inférences logiques simples et des déductions du monde naturel. Nous pouvons et devons faire de même. Principe numéro 8, les chrétiens peuvent utiliser des arguments pour démontrer la sottise de ceux qui nient Dieu intellectuellement ou pratiquement. Les chrétiens peuvent le faire en appliquant la révélation générale pour leur démontrer qu'ils sont sans excuse. On relit une autre fois Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Psaume 94, versets 6 à 11. Donc ici, c'est un passage qui nous montre que Dieu voit les péchés, qu'il appelle les pécheurs à la repentance et qu'il les réprimande. Alors ça dit dans le verset 6 du psaume 94, et je lis jusqu'au verset 11, « Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, « L'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez garde, homme stupide, insensé. Quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punit-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. » Principe numéro 9. L'utilisation sage des arguments théistes varie selon la culture et l'éducation. Autrement dit, on va aller regarder quelques passages dans le livre des Actes où Paul, dépendamment du groupe de personnes auxquelles il s'adresse, va varier un petit peu sa façon d'utiliser des arguments théistes. Alors, on peut constater ce fait-là dans les prédications de Paul, dans le livre des Actes. Son discours varie en fonction du groupe de personnes auxquelles il s'adresse. On va regarder d'abord avec les Juifs. Avec les Juifs, il fait appel à l'histoire du peuple d'Israël. Alors, c'est un long passage, je ne lirai pas complet, mais on peut aller regarder dans le livre des Actes. On va regarder simplement les premiers versets. Quand il s'adresse à des Juifs, il s'adresse à eux en considérant qu'ils connaissent déjà leur histoire et qu'ici, il vient tirer ses arguments de l'histoire du peuple juif. Alors, dans l'acte 13, verset 16, Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit, « Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple Israël a choisi nos pères, il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. » Et personne n'aurait intérêt à aller voir la liste. Alors, autrement dit, Paul, quand il se trouve devant un groupe de Juifs, ne parle pas de la même façon qu'il parlerait avec d'autres groupes. Alors, on va le voir aussi avec de quelle façon il argumente avec les païens. Alors, ici, il vient leur parler lorsque eux, les païens, ils s'apprêtent à adorer quelqu'un qui a fait un miracle. Donc, ils ont fait un miracle et on voit que les païens s'apprêtent à l'adorer et on voit de quelle façon Paul s'adresse au groupe et qu'il veut les avertir. Alors, on lit le chapitre, versets 11 et 18. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Oh, homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant de bonnes nouvelles, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Alors on voit qu'il ajuste son discours en fonction du groupe devant lequel il se trouve. Et on va voir un autre exemple, c'est celui que comment Paul s'est adressé à l'élite intellectuelle d'Athènes. Alors, Paul utilise ici plus des arguments qui sont basés sur leurs auteurs païens. Acte 17, versets 22 à 31. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme bathénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il ne s'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, Nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors, on voit dans le texte, dans le verset 25, ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. Alors, parfois, il va utiliser même des arguments de type intellectuel en parlant de leurs écrivains, qui étaient aussi des païens, mais ce qui nous indique que parfois, les païens peuvent dire des choses sensées. Le principe numéro 10. Les chrétiens doivent s'abstenir de se glorifier dans la sagesse humaine. Les chrétiens doivent éviter de tenter de convertir une personne par le moyen de l'argumentation ou de la rhétorique humaine. On voit par exemple dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22-25, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 et 2. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alors ici, Paul vient parler de l'idée de ne pas utiliser la sagesse du monde, et il dit, « Moi, pour moi, je vais prêcher Christ et Christ crucifié. » Principe numéro 11. Les arguments théistes sont des appels au témoignage de Dieu dans la création. Actes 14, versets 16 et 17. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ésaïe, chapitre 44, versets 8 et 9. Donc ici, on a le témoignage de Dieu dans la création, et on a aussi le témoignage de Dieu dans son peuple. Alors il leur dit dans Ésaïe 44, versets 8 et 9, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dit longtemps, annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Il ne faut pas essayer d'utiliser une théologie naturelle qui érige la raison humaine en autorité. Le grand théologien Herman Bavinck a dit ceci à propos des témoins, de ses témoins. Bien que faibles comme preuve, ce sont des témoignages solides. Les non-croyants peuvent toujours trouver un contre-argument pour retenir la vérité, mais la révélation de Dieu dans sa création atteint néanmoins leur cœur. Et dernier principe, principe numéro 12, les arguments théistes sont au mieux comme la loi morale qui convainc, mais qui ne peut sauver. Les arguments théistes ne peuvent conduire au salut en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, versets 13 à 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendraient-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le théologien John M. Frame dit, « Il y a des arguments en faveur de l'existence de Dieu qui ont une certaine valeur, mais les non-régénérés confessent parfois l'existence de Dieu sur la base d'arguments, d'expériences ou de sentiments. Mais ils ne vivent pas pour Dieu pour autant. De telles croyances provisoires ne suffisent pas à produire une vie centrée sur Dieu. Les croyances provisoires ne peuvent vaincre le pouvoir de l'incrédulité méchante dans le cœur de l'homme. Seule la grâce souveraine du Seigneur et du Saint-Esprit le peut. » Application. Ainsi concluons-nous avec Augustin qui disait que Dieu est vie éternelle, immuable, intelligent, sage, rendant sage. Certains philosophes, même de ce monde, l'ont vu. Les principes de toutes les choses créées, ils les ont vus en effet, mais de loin. Ils voyaient, dans la mesure où l'homme peut le voir, le Créateur au moyen de la création et l'ouvrier par son œuvre. Pourtant, comme le dit l'apôtre Paul, ils ont retenu la vérité dans l'injustice et sont devenus fous. Romains chapitre 1, versets 18 à 22. Augustin a dit, « Ce qu'ils ont trouvé par recherche curieuse, par orgueil, ils l'ont perdu. Que ferons-nous? Où devrons-nous aller? » Augustin nous a dirigés vers les paroles du Christ. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient adorés, loués et exaltés éternellement. Amen. »